Bonjour à toutes et bonjour à tous. En premier lieu, je souhaiterais remercier évidemment la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, sa directrice Christine Carrier et son équipe de nous accueillir pour cette journée. Merci également à Enora Hulchen, responsable du service musique, de nous faire visiter l'espace musique cet après-midi. Je souhaiterais également remercier l'association Réseau Carrel, sa présidente Sophie Perrusson, et Emmanuel Sunet, négociatrice Carrel, Geneviève de Maupéou, déléguée à la coopération nationale et internationale, et Olivier Pichon, trésorier Carrel et responsable du groupe de travail Images et Sons. Les remercier pour avoir organisé cette journée d'échange et de présentation autour des ressources numériques de musique en y associant la CIM comme partenaire. Dans ce domaine, la CIM, en 2015, a constitué un groupe de travail sur la musique numérique pour contribuer à l'évaluation et au développement de l'offre. Et donc, ce groupe de travail s'est donné trois objectifs, la rédaction, la diffusion d'une enquête par questionnaire qui a été réalisée et dont vous pouvez trouver la synthèse des résultats sur le site de la CIM. Ce groupe de travail musique numérique a également rencontré de nombreux prestataires, de nombreuses start-up dans le domaine de la musique. Et puis, en troisième lieu, donc, nous sommes réunis pour réfléchir à la rédaction d'une grille d'analyse pour mieux appréhender la nature et le contenu des ressources existantes. Donc, c'est cet aspect-là que nous allons voir aujourd'hui, car cette journée va d'une part nous permettre de mieux connaître les actions des professionnels des bibliothèques dans le domaine de la musique numérique, grâce à la table ronde qui va suivre, et également de mieux connaître l'offre numérique cet après-midi sur le salon des fournisseurs en rencontrant les prestataires. Donc ce sera différents critères, différents points peut-être à voir avec eux, et donc ces points-là, on va les voir à présent. Voilà, donc les ressources numériques musicales ou musicales numériques proposées en bibliothèque, elles sont relativement nombreuses. Et ce tableau n'est pas exhaustif. On peut citer la Philharmonie de Paris à la demande, anciennement offre média de la Cité de la Musique, Indétouch, MusicMe, BNF Collection proposée par Médiathèque Numérique, Naxos Music Library, Medici TV, Doob, CVS, Médiathèque Numérique, Crystal Zik et d'autres encore, Monkey, Vive la Culture, et d'autres encore. Le problème, on pourrait dire, le problème par rapport aux ressources numériques musicales, quand on souhaite les comparer, quand on souhaite les évaluer, il est de trois natures. D'abord, il est difficile, selon l'expression familière, de comparer une pomme et une orange. Dans ce cas-là, chaque ressource possède des caractéristiques assez différentes, avec des domaines d'excellence et des lacunes. Voilà, donc tant au niveau du contenu que de la manière dont ces ressources sont proposées. D'autre part, il est difficile de se forger un avis définitif sur une ressource à un instant T, parce que la ressource évolue, elle se développe comme une start-up, comme une ressource numérique, avec un accroissement du catalogue. On peut prendre l'exemple d'un des touches qui, partant du catalogue de CD1D, a intégré une partie du catalogue Believe, intègre de nouvelles fonctionnalités et intègre de nouveaux conditions d'accès, donc des accès d'abord peut-être sur une borne, et puis après l'accès devient possible via Internet. Ensuite, ces ressources peuvent se combiner. Une ressource peut être intégrée ou présentée dans une autre, c'est-à-dire qu'une ressource peut héberger une autre ressource. Pour prendre un exemple, le portail numérique de la médiathèque numérique de Dordogne donc, est hébergé via une page médiathèque numérique, et sur ce portail, donc, eh bien, on peut consulter la Philharmonie, on peut consulter MusicMe, et on peut également consulter des partitions. Donc on va voir 15 points qui permettent chaque fois de dissocier, de distinguer les offres proposées par ces différentes ressources. Le premier point, c'est la nature des prestations proposées. Alors, la prestation peut être un abonnement à un accès à une plateforme de contenu, type streaming, type écouter de la musique en ligne, regarder une vidéo en ligne, voilà. Par exemple MusicMe ou Indétouch. La prestation peut être également, comme on vient de le voir, une plateforme d'agrégation ou de diffusion d'abonnements. C'est ce que propose CVS Médiathèque Numérique ou Biblion Demande. Ça peut être une solution logicielle, comme le propose Doob, Crystal Zik ou Sonolis, La prestation peut être du matériel, des bornes, du mobilier, des ordinateurs. Peut être une prestation de numérisation pour numériser ses collections. Et enfin, ça peut être aussi des contenus éditoriaux qu'on peut proposer sur le portail de la médiathèque ou des métadonnées de musique pour enrichir son catalogue. Le deuxième mode, le deuxième critère à prendre en compte, c'est le mode de consommation de ces contenus. Et en ce qui concerne la musique, le mode le plus fréquent est celui du streaming. Pratiquement toutes les ressources proposent de consulter, consulter le contenu donc, en ligne. Certaines ressources également proposent une écoute en mode hors ligne. C'est le cas de Moonkey, par exemple, parce qu'elle prend en compte le fait que cette ressource peut être utilisée. Moonkey est une offre de musique avec un catalogue de disques de musique pour enfants. Et donc, cette offre peut être utilisée dans le cadre d'ateliers. Et puis enfin, donc, on peut avoir des ressources qui proposeront du téléchargement. Mais ça, c'est plutôt rare. Donc, on voit qu'il y a déjà un rapport inversé par rapport aux ressources numériques du livre. Si on prend l'exemple de PNB, où en fait, c'est par le téléchargement qu'on accède à la ressource. Ici, pour la musique, on y accède par le streaming, essentiellement. Le troisième critère à prendre en compte, c'est quel type de média, quel type de contenu on va pouvoir consommer, avoir à sa disposition. Majoritairement, on va avoir de la musique enregistrée, Radio Touch, Musique Me, Naxos, BNF Collection. Mais on peut également avoir des choses plus spécifiques, comme des concerts ou des opéras en vidéo, ce que propose Medici TV ou Philharmonie à la demande. Toujours dans le même genre, on peut avoir aussi des documentaires ou des conférences musicales. On peut avoir aussi du texte, ce que propose Oxford Music Online, où on peut avoir accès au Grove. Voilà. On peut avoir accès à des partitions et à d'autres types de contenus bien différents, comme des ressources d'auto-formation, d'e-learning, du contenu multimédia et interactif, comme le propose par exemple Musiclick, Meludia ou encore toutapprendre.com. où on peut apprendre la basse, la guitare, et le piano, etc. Enfin, certaines de ces ressources ne proposent, certaines de ces sociétés ou prestataires ne proposent pas, ne sont pas spécifiquement, ne proposent pas une offre spécifiquement musicale, mais également des bouquets qui peuvent être, pour le cas d'un des touch, des jeux vidéo, pour le cas de BNF Collection, des livres, et voilà, et j'en passe. Donc, effectivement, qu'y a-t-il de commun entre un player audio, un player vidéo, un article du Grove, des partitions, un guide musical interactif, de Philharmonie à la demande, ou une vidéo permettant d'apprendre à jouer de la guitare. Le quatrième critère à prendre en compte, c'est le mode d'accès à ces ressources. Le mode d'accès qui tend à devenir, on va dire, le majoritaire, c'est l'accès web, donc qui permet à l'usager de pouvoir consulter la ressource depuis son domicile. Mais ça peut être également un mode d'accès sur un ordinateur dédié à l'intérieur de la médiathèque ou avec du matériel spécifique sur une borne, sur une tablette, et également via une application. Le point à prendre en compte également, même avant de parler de musique, parce que là, on n'a encore pas parlé effectivement de contenus musicaux, c'est la qualité de l'offre. D'abord, la qualité de l'interface, son ergonomie, son esthétique graphique. Est-ce que la présentation a évolué depuis 10 ans ou est-ce qu'elle est restée la même? Mais surtout, son ergonomie. Est-ce que l'utilisateur peut retrouver ses repères assez rapidement? Ensuite, s'il s'agit d'une ressource de musique enregistrée, quelle est la qualité audio? Quel est le format des fichiers? Même si c'est une question qui peut être relativement accessoire, mais est-ce que c'est du MP3, du FLAC, etc. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout le taux de compression. C'est-à-dire, est-ce que la musique qu'on va pouvoir écouter est très compressée ou est-ce qu'au contraire, elle se rapproche d'une qualité dite CD? Donc, sur ce type de points, on n'a pas forcément souvent des réponses très précises qui sont formulées par les fournisseurs. Autre point également, si on parle de la vidéo, quelle est la résolution de la vidéo? Est-ce que c'est une résolution HD ou au contraire, est-ce que c'est une faible résolution? La qualité d'offre aussi peut être importante par rapport à la rapidité du site web. Est-ce qu'il y a une latence? Est-ce qu'il y a un temps de réponse entre le moment où je pose ma question et le moment où la recherche apparaît, quoi. et aussi quelle est la bande passante minimum requise. Alors ça peut être relativement accessoire comme question pour de l'audio, mais c'est important pour de la vidéo, pour savoir si effectivement on a une bande passante, soit la médiathèque, soit depuis chez soi, suffisante pour pouvoir regarder une vidéo en streaming. Et puis enfin, la qualité des métadonnées qui sont associées aux fichiers musicaux et l'information d'accompagnement qui va avec. Alors, pour ce qui est de la configuration nécessaire et du test de la bande passante, donc Philharmonie de Paris à la demande, présente une configuration optimale où il est nécessaire, par exemple, d'avoir une connexion Internet où la bande passante est supérieure à 10 mégabits par seconde. Voilà. Et donc on peut faire des tests, etc. Pour ce qui est des métadonnées et du matériel d'accompagnement, ce qui est relativement rare, c'est par exemple la discothèque Naxos qui propose pas sur tous les CD, mais en tout cas sur un certain nombre de CD, donc la possibilité de télécharger ou de consulter le booklet, c'est-à-dire le livret. Par exemple, ici, on a un opéra d'Alban Berg, Wozzeck, eh bien on peut ouvrir le document PDF et pouvoir lire l'équivalent du livret qu'on trouverait dans le CD habituellement. Le sixième point concernant ces ressources, c'est aussi, on s'avance vers la musique, le contenu musical, c'est les types de répertoires. On aura des ressources qui seront généralistes, c'est le cas de Music Me, le BNF Collection, Philharmonie de Paris, Indetouch. On aura des ressources qui seront typiquement spécifiques à la musique classique et savante, comme Naxos Music Library, Medici TV. Des ressources qui seront très axées, pas spécifiques, mais très axées sur les musiques actuelles, comme Indetouch, des ressources qui seront spécialisées pour les enfants, comme Monkey, et puis d'autres sur le jazz, comme Naxos Music Library Jazz. L'autre point, quand on envisage ces musiques, c'est de savoir par qui elles ont été éditées. Alors, s'agit-il de musique enregistrée? Donc la musique des labels des majors, des grandes majors. Donc actuellement, il existe trois majors. Il y a Universal, Warner et Sony. Donc quelles ressources vont proposer la discographie de ces majors? Donc aujourd'hui, on a Music Me et puis pour la musique classique, on a Naxos. Pendant un temps, Naxos ne proposait qu'un catalogue de labels indépendants. Et depuis 2-3 ans, donc, est là pour tout ou partie intégrer les labels comme Deutsche Grammophon, les labels d'Universal, les labels de Sony et les labels de Warner. En deuxième lieu, on a les labels indépendants. Donc, on va en trouver Indetouch indépendant. On va en trouver donc sur la ressource Indetouch. Chez Music Me, on en trouvera également un certain nombre, et Naxos. Et puis, on aura aussi des ressources qui proposeront des productions audiovisuelles institutionnelles. C'est le cas de Philharmonie de Paris, ou des autoproduits issus de netlabels comme Dub. Voilà. Donc, si on voit la page d'accueil de Music Me, on voit que ce sont quand même des artistes très médiatisés qui sont mouillés en avant. Michel Fugain, Dinah Crowell, Sofiane, Céline Dion, Julien Doré, Frédéric François. Voilà. Donc les labels majors et artistes médiatisés. Pour une ressource comme une plateforme comme Indetouch, ce sont les labels indépendants qui sont présents au catalogue et également qui sont présentés comme plongés au cœur de la création indépendante, donc qui font la richesse également de cette ressource. Et donc, pour une ressource comme Music Me, eh bien, on aura en fait des productions audiovisuelles institutionnelles ou commerciales, mais issues des grandes scènes, Philharmonie de Paris, Opéra de Paris, BBC, Berliner Philharmoniker, etc. On doit également examiner le régime juridique des œuvres proposées. Pour les plateformes type Music Me, Indetouch, Philharmonie de Paris, eh bien, on a affaire à des œuvres qui sont protégées, aussi bien par le droit d'auteur que par les droits voisins. On va avoir d'autres ressources où les droits voisins sont libérés. Donc, c'est le cas de BNF Collection, puisqu'en fait, ces ressources, il s'agit de la numérisation de micro-sillons sur la période milieu des années 40 jusqu'à 1962. Et donc, ces œuvres sont libérées des droits voisins, mais sont sous licence d'exploitation, ce qui fait qu'on va les trouver. Et donc, c'est Bidif qui exploite ce catalogue. Donc, on va ces œuvres, on va aussi bien les trouver dans BNF Collection qu'on va les trouver pour tout ou partie sur le catalogue de Music Me ou d'un des Touch. Et puis également, donc, on aura des œuvres sous licence de libre diffusion, c'est-à-dire par exemple sous licence Creative Commons, ou des œuvres qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire dont le compositeur est mort depuis 70 ans ou dont les enregistrements datent de plus de 50 ans. On peut également, il faut également considérer les modes de recherche sur chacune de ces ressources. La recherche simple, recherche avancée, recherche à facettes, par catégorie, par genre, par suggestion. Alors, recherche simple, c'est type une recherche Google, recherche par mot-clé, on peut dire, on tape un mot, ici c'est naïve, et on obtient donc la réponse. Tout ça, c'est sur le catalogue, c'est sur le site d'Indetouch. On a une réponse par les occurrences classées par titre, par artiste, album et label. Voilà. Donc ça, ce sont les recherches en général les plus pour dire basiques, c'est sur le titre, l'album, l'artiste et le label. On va avoir une possibilité de recherche avancée, notamment sur le site de la discothèque Naxos, où là, on aura une possibilité de faire une recherche sur le compositeur, sur l'interprète, sur le groupe vocal ou sur le groupe orchestral, sur l'instrument, sur la période musicale, sur le pays. Voilà. Donc un certain nombre de critères qu'on va pouvoir croiser pour pouvoir avoir une recherche, beaucoup affiner sa recherche. Autre manière d'affiner la recherche, c'est la recherche à facettes que propose Philharmonie à la demande. S'il s'agissait d'une recherche sur Mozart, ici sur la gauche, on a une colonne qui indique le nombre de documents, donc audio, le nombre de vidéos, le nombre de guides d'écoute, et puis également d'autres facettes par genre, par période historique, par compositeur, par chef d'orchestre. On a également une recherche par genres musicaux que propose notamment Indetouch, donc les différents genres aussi bien électro, blues, musique pour enfants, etc. Et une recherche par suggestion, c'est-à-dire une recherche qui va permettre de rebondir ou de pouvoir découvrir des artistes ou des albums similaires. C'est ce que propose Music Me. Si on fait une recherche sur Rihanna, il va nous proposer d'autres artistes du même genre. Ce que propose également Indetouch avec une recherche sur l'album Dans le caillou de Carpath, il va nous proposer des albums de Presque Oui, par exemple. Et puis, ce que propose également Medici TV. Ici, on a l'opéra Othello de Verdi. Il nous propose Falstaff de Verdi, La Bohème de Puccini, voilà, ou un autre. Ce qui est important aussi, c'est de faire le lien entre la ressource et la bibliothèque et avec le lien avec le portail de la bibliothèque. Donc on a notamment, ce qu'il faut envisager, c'est la possibilité de comment l'usager va s'inscrire à la ressource. Donc ce qui peut être pratique et utile, c'est d'avoir un lien SSO, donc une inscription via un formulaire. SSO, c'est une autorisation unique et automatique des utilisateurs. Ça, on va voir ça plus tard. Ce qui peut faire le lien, c'est d'intégrer donc les notices par une recherche fédérée, les notices de la ressource à l'intérieur de la recherche du portail, du catalogue, et puis également concernant les données d'utilisation et les données sur les utilisateurs. Donc, concernant donc l'intégration au portail, là c'est un exemple, c'est le portail du jumel de la Jura Médiathèque en ligne, qui donne à l'utilisateur l'accès à tous les abonnements via une authentification unique et automatique après une première inscription. Donc on aura aussi bien accès donc aux ressources d'auto-formation, les ressources de cinéma, ressources destinées aux enfants, sur le livre, la musique, une fois qu'on aura donc inscrit son nom de famille, son numéro de carte et le nom de sa bibliothèque. Voilà. Donc si la personne n'est pas inscrite, elle a un formulaire d'inscription et ensuite donc elle peut en s'étant identifiée une seule fois accéder à toutes ces ressources. L'intégration, la recherche fédérée, donc l'intégration au portail, ici c'est l'exemple de la médiathèque de Levallois qui intègre au résultat de la recherche les notices du catalogue de la Philharmonie à la demande et d'un des Touch. Donc ici j'ai tapé Bach clavier bien tempéré, et bien donc on aura affiché comme résultat une ressource émanant de la Cité de la Musique, une ressource émanant, c'est la première émanant d'AD Touch, et la troisième affichage, le CD qui se trouve à la discothèque de Levallois. Et puis enfin, donc sur ce point, la gestion des statistiques. Donc, il faut examiner pour chaque ressource les critères qu'on peut examiner sur l'activité de la ressource, sur l'audience de la ressource, et puis sur le comportement des utilisateurs. Le point qui me semble-t-il pose problème actuellement avec les ressources numériques musicales, c'est les fonctions de partage qui sont offertes à l'usager. Alors, pour faire comparaison, on pourrait dire, j'ai ici une copie d'écran d'une vidéo qu'on trouve sur YouTube, donc un clip de l'artiste récent, Chocolat. Donc, alors, sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut connaître le nombre de vues de la vidéo, on peut s'abonner à la chaîne de l'artiste, on peut dire si on aime ou si on n'aime pas. On peut intégrer le titre à une playlist. On peut partager ce titre, cette vidéo, via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On peut mettre la vidéo sur son blog en copiant le code HTML. On peut laisser un commentaire. Et on peut également engager une conversation à partir du avec d'autres personnes sur les commentaires qu'ils ont laissés. On peut enfin suivre l'activité d'autres utilisateurs du service. Donc pour le cas de cette vidéo, on a 53 millions de vues, on a 23 000 commentaires et on a des boutons pour ajouter à une playlist, pour exporter une widget, pour envoyer par email, par Facebook, voilà. Donc ça c'est l'exemple de peut-être la ressource la plus populaire au niveau mondial. Concernant donc les ressources proposées aux bibliothèques, eh bien, on peut s'interroger à quel type de fonction de partage elle propose à l'utilisateur. Est-ce qu'on peut partager le lien sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut faire un commentaire, laisser son avis ? Est-ce qu'on peut faire une playlist et la partager ? Est-ce qu'on peut suivre l'activité d'autres usagers du service ? Et puis, le deuxième point, c'est la visibilité de la ressource lorsque l'usager, l'utilisateur, lorsque le public n'y est pas connecté. Alors, cette visibilité, elle peut varier selon les ressources. MusicMe est accessible à l'internaute sans inscription préalable. Par contre, l'accès en sera limité. Et certaines autres ressources permettent, sans inscription, de pouvoir consulter des extraits ou de pouvoir utiliser la ressource sur une durée limitée. Et puis, il y a d'autres ressources qui, quand on n'est pas connecté, eh bien, on ne pourra pas avoir d'aperçu de pouvoir essayer la ressource. Donc, ces fonctions, on pourrait dire, ces fonctions de partage sont davantage développées pour les bibliothécaires. On va parler de fonctionnalités de médiation, avec la possibilité de personnaliser la plateforme en ajoutant une bannière, un logo, en éditorialisant, par exemple, en mettant un lien vers le portail. La possibilité aussi de faire des sélections, de faire des dossiers, de faire des capsules. La possibilité de partager, de réaliser et de partager des playlists, de faire des web radios. Et puis également, la médiation réalisée par les bibliothécaires pourra être mutualisée entre bibliothécaires, clients de la ressource, de bibliothécaires de différents établissements. Alors voyons d'abord donc pour ce qui est de MusicMe, on a ce dont je parlais, cette fameuse bannière qui permet de personnaliser donc la page, et puis également les web radios. Donc ici on est sur la page MusicMe de Clermont Communauté, et donc les bibliothécaires de Clermont ont donc confectionné une web radio sur la scène d'Auvergne, le son de l'Auvergne. Voilà. Sur le site d'AD Touch, ces fonctions de médiation s'appellent capsules. Donc c'est une sélection de plusieurs albums avec un petit chapeau, un petit texte de présentation. Et puis, autre type de médiation, donc c'est la médiathèque de l'agglomération de Pau-Pyrénées qui, avec la ressource Doob, et donc présente l'élection Zik Libre en Bib 2017, donc sous la forme d'une playlist. Voilà différents types de médiation. Et donc, ce dont je parlais, c'est la possibilité de mutualiser ces playlists, ces sélections. Donc, sur un des touches, cette possibilité s'appelle la réserve des capsules. Et donc, il en existe plusieurs centaines. Donc, on peut parcourir ce fond pour pouvoir récupérer une capsule intéressante et pouvoir la mettre à jour. Voilà, donc ici on a différentes capsules, comme on aurait voulu les acheter en CD, mais ils n'existaient qu'en vinyle et en digital. Voilà. Et donc ça, c'est la possibilité proposée par un des touches. Celle qui est proposée par Doob s'appelle le butin numérique. Donc 5000 disques du domaine public, 18 000 titres de musique libre y sont répertoriés. Voilà, les grands auteurs classiques. Et puis, pour ce qui concerne MusicMe, cette possibilité s'appelle Wikibib et Biblioradio. Donc, pour que les prescripteurs puissent partager leur travail, nous avons mis en place un réseau collaboratif qui leur est dédié. Ce réseau regroupe l'ensemble des ressources éditoriales produites, ainsi que toutes les playlists web radio et fiches descriptives élaborées par les bibliothèques du réseau. Ces ressources sont modifiables et exploitables par tous, à la manière d'un média wiki. Donc, Si MusicMe est présente cet après-midi, on pourra peut-être voir cette ressource. Et puis, donc, j'en arrive à la fin de cette présentation. Eh bien, évidemment, ces ressources ont un coût. Alors, le coût, d'abord, c'est un coût d'abonnement. Ce coût d'abonnement peut être calculé sur le nombre d'habitants de la collectivité. C'est assez rare, il me semble. Sur le nombre d'usagers inscrits à la bibliothèque. Et sur le nombre d'utilisateurs actifs, ce qui est très différent entre le nombre d'utilisateurs inscrits à la bibliothèque et le nombre d'utilisateurs actifs, ou encore par le nombre d'accès simultanés à la ressource. Donc ce coût, il n'y a pas seulement à prendre en compte évidemment un coût d'abonnement, il y a aussi les différentes options qui peuvent être prises, par exemple web radio et autres, le coût du matériel, le coût de la mise en place, de la personnalisation du service, de la maintenance. Donc on a d'une part un coût initial d'investissement et un coût annuel. Donc pour peut-être se faire une idée du coût, on peut faire un calcul sur 5 ans pour voir à peu près quel serait le coût annuel. Donc ici on a quelques tarifs proposés en ligne par les fournisseurs, les tarifs Philharmonie de Paris. Et donc on voit par exemple une colonne nombre d'adhérents à la médiathèque jusqu'à 5000, nombre prévu actifs du service 50. Voilà, donc ce qui résume un petit peu l'idée, c'est que on a sur 100 inscrits, on va prendre une fourchette de 1 à 5 personnes qui seront utilisateurs actifs. C'est à peu près ce qu'on peut escompter. Quoi. Voilà. Autre option qui peut varier. C'était des bouquets de labels. MusicMe propose un tarif catalogue indé et un tarif indé major. Donc le catalogue indé étant moins onéreux. Enfin, donc le dernier critère à prendre en compte, c'est donc tous les services et l'accompagnement par rapport à cette ressource. Donc la documentation qui sera fournie, documentation technique, mode d'emploi. Et l'accompagnement des bibliothécaires quant à l'information sur l'évolution du service, les newsletters par exemple qui peuvent être envoyés régulièrement pour informer les bibliothécaires, la qualité de l'assistance, de la maintenance, les supports de communication et de médiation, donc les flyers, les affiches, les guides qu'on peut télécharger sur le site par exemple en PDF et puis imprimer. Et puis enfin, donc, savoir si les personnes, si l'équipe de prestataires s'implique dans la formation, dans la médiation, dans l'animation. Voilà. Donc, je prendrai un exemple d'un des touches qui a organisé des rencontres professionnelles à la bibliothèque de Lyon l'an dernier, donc sur deux jours pour imaginer des solutions de médiation en bibliothèque, donc en partenariat avec la BM de Lyon. Voilà. Donc, et en fin de compte, évidemment, les critères pour choisir une ressource, c'est de réfléchir à l'adéquation de la ressource à la bibliothèque. Hein, si c'est une bibliothèque publique, une bibliothèque académique, une bibliothèque de conservatoire, forcément, les ressources ne seront pas forcément les mêmes. L'adéquation au public et à son territoire, si un public urbain, un public rural, Voilà. Un public peut-être formé plutôt d'étudiants ou un public formé ou pas. Et puis, la vie et l'engagement, peut-être prendre connaissance de la vie et puis constater l'engagement des bibliothécaires musicaux par rapport à cette ressource pour la défendre, pour la faire vivre, pour faire partager les contenus qui y sont proposés. Et puis, évidemment, après un temps de mise en place, le retour sur l'utilisation du service par les usagers, les indices de satisfaction, du public, important. Et alors, donc, j'en arrive à la conclusion de cette intervention. Conclusion en trois points. D'une part, donc, il paraît nécessaire de faire évoluer ces ressources numériques afin qu'elles deviennent plus inclusives, c'est-à-dire qu'elles soient davantage centrées sur l'expérience de l'utilisateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, les offres de musique en ligne gratuites existent et sont très utilisées, en premier lieu YouTube, mais d'autres, Deezer, Spotify et autres. Et comme on le voyait tout à l'heure, le succès en grande partie de ces ressources sont sur le fait qu'elles sont organisées aussi avec des offres de fonctionnalités de partage. Voilà, donc ne pas oublier l'utilisateur, ne pas seulement penser à la médiation, mais penser également à l'utilisateur comme acteur de cette, comme participant avec cette ressource. En deuxième lieu, donc penser également à l'existence de ressources numériques qui sont déjà en place actuellement dans les bibliothèques, qui sont produites ou coproduites par les bibliothécaires. Et bien, on en verra quelques-unes dans la table ronde qui va suivre. Zic Libre en Bib, Sonothèque Normandie, Gironde Music Box, l'électrophone. Donc il convient aussi de favoriser cette production, le développement de ces ressources, et voir dans quel sens elles peuvent être associées ou pas avec les autres offres existantes. Et puis d'une manière générale, de manière à améliorer de la même façon que dans l'offre PNB, donc il y a des journées d'études, il y a des enquêtes qui sont faites approfondies, je pense notamment aux enquêtes de Guillaume Hatt à Grenoble, et donc il est nécessaire de faire ce travail de collectage, de rassembler des retours d'expérience, aussi bien des statistiques que des avis sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne moins bien, sur le travail aussi de médiation réalisé avec et autour de ces ressources, et de poursuivre la coopération et pour continuer des journées d'études telles qu'aujourd'hui, pour continuer à partager l'information entre nos associations et puis y associer également les tutelles, notamment le service du livre et de la lecture. Écoutez, merci de votre attention. Merci.